Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale que je fais à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années maintenant, mais toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes au chapitre 12 de cet ouvrage qui s'intitule « Psychologie politique ». L'épigraphe que j'avais mise justement à ce chapitre, c'est une phrase de Alexis de Tocqueville, « La nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance ». Alors, qu'avons-nous dit lors de la dernière émission? Nous avons opposé hétéronomie et autonomie. J'avais dit que l'organisation politique, en général, repose sur l'une ou l'autre des deux visions suivantes. Premièrement, l'homme peut être mené ou guidé par une instance supérieure à laquelle il se soumet volontairement ou involontairement. Ou bien, deuxièmement, il invente lui-même, directement ou indirectement, ses propres lois. Alors, dans le premier cas, on parle d'hétéronomie. En grec, hétéros, c'est autre, et nomos, c'est la loi. La loi qui est donnée à l'homme dans l'hétéronomie lui est antérieure et extérieure. Et dans le second cas, on parle d'autonomie, au sens où l'homme est créateur, origine ou émanation de la loi. Autos, c'est soi-même, hein, en grec, et nomos, toujours la loi. Alors, bien entendu, je suppose que tout le monde préférera l'autonomie à l'hétéronomie. A priori, cela semble plus digne. Mais en fait, l'autonomie suppose beaucoup de difficultés. Alors, quelles sont ces difficultés? Je dirais que, paradoxalement, l'hétéronomie est bien plus confortable que l'autonomie au sens d'invention responsable des lois. En effet, la liberté fait peur, et il est plus facile de se laisser guider. Donc on préférera la sécurité dans l'obéissance à des règles imposées, plutôt que l'angoisse dans l'invention constante des règles. Cette invention, en effet, comporte risque ou responsabilité. Considérons par exemple la fable de La Fontaine, Le loup et le chien. Je pense que cette fable dit l'essentiel là-dessus. En effet, le loup qui meurt de faim est tenté d'abord par la situation du chien, qu'il voit comme étant gros et gras et bien nourri. Donc le loup suit le chien. Chemin faisant, le loup voit le cou du chien pelé. Alors le loup interroge le chien, et le chien est obligé de reconnaître qu'il est attaché, qu'il ne peut pas courir où il veut, d'où la marque du collier autour de son cou. Alors, moyennant quoi, évidemment, le maître du chien le nourrit copieusement. Alors, voyant cela, le loup s'enfuit et préfère une liberté pleine de risques au bonheur dans la servitude. Il préférera l'honneur au bonheur, l'honneur d'être libre, au bonheur d'être nourri, bien sûr, mais d'être esclave. Alors, sommes-nous sûrs que la majorité de nos contemporains ferait le même choix? Un sondage là-dessus serait, à mon avis, bien instructif. Beaucoup préféreraient, même s'ils ont du mal à l'avouer, être dans la situation du chien, être nourri, hein, plutôt que d'avoir la liberté et la responsabilité afférentes. Alors, un homme comme Zinoviev, dans un livre qui s'appelle « Le communisme comme réalité », a analysé le fonctionnement du communisme russe, avant l'effondrement, bien sûr, de la Russie soviétique. Et Zinoviev remarque qu'un tel système n'aurait pas pu durer si longtemps s'il n'avait été imposé de force à tout un peuple par un régime policier, si ce régime avait été très redoutable. Il y a sûrement eu, dans le maintien de ce type de régime, un minimum de connivence ou de complicité des assujettis, un minimum d'acceptation chez eux. Le communisme, nous dit Zinoviev, satisfait le désir répandu chez l'homme de vivre en troupeau, le goût de la vie grégaire et de la massification. Alors grégaire, ça renvoie au latin grex, gregis qui veut dire troupeau, hein. Les hommes préfèrent cette vie grégaire, cette massification, ils préfèrent la déresponsabilisation, l'assistance qui vient justement dans cette prise en charge déléguée à quelqu'un d'autre, hein. Alors bien sûr, les avantages matériels obtenus par chacun dans la Russie soviétique n'étaient pas très grands par rapport au mode de vie occidental ou libéral. Mais ils existaient quand même, si petits qu'ils aient été. Alors bien sûr, la démotivation et l'irresponsabilité se payaient très cher dans ce type de régime. Il y avait la dépression, hein, la tristesse, éventuellement l'alcoolisme. Mais enfin, l'incurie générale a quelques attraits. Et puis, chacun se console de ne pas avoir de liberté en voyant que les autres n'en ont pas davantage. Comme la médiocrité est générale, elle scandalise beaucoup moins. En outre, et là est le principe diabolique de ce système, comme le pouvoir est disséminé et fragmenté au maximum, chacun peut gêner son voisin en abusant de l'infime parcelle qu'il a de ce pouvoir. Par exemple, le petit fonctionnaire Tatillon va se consoler de sa vie misérable et terne en persécutant les autres. Par exemple, il fera le chantage au coup de tampon. Il doit viser un document, mettre un tampon, eh bien, il s'imagine avoir un pouvoir quelconque, si petit soit-il. Tout le monde sait que moins on a de pouvoir, plus on abuse du peu de pouvoir qu'on en possède. Le petit policier, par exemple, est moins tolérant que son chef. Alors Zinoviev imagine, comme modèle de la société communiste, deux rats qui s'étrangleraient l'un l'autre. Il appelle ça le ratorium, hein, le ratorium. Hein. C'est ça le modèle du communisme, hein, deux rats qui s'étranglent l'un l'autre. Alors, bien sûr, ici s'ouvrent les abîmes de la servitude volontaire, dont parlait la Boétie, l'ami de Montaigne. Hein. Comment se fait-il que les gens adhèrent à leur propre esclavage? Alors, c'est une question de psychologie aussi. Il est évident qu'à la base des situations, des régimes ou des modèles politiques, il y a des situations et des modèles psychologiques. Toute réflexion politique doit partir d'une exploration de la psychologie. Et les difficultés de l'autonomie seront utilement éclairées par l'apologue du grand inquisiteur dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Cet apologue, qui est raconté par Ivan Karamazov, c'est parmi les trois frères le seul qui soit radicalement athée, hein, dit la chose suivante. On suppose que Jésus revient sur terre en pleine période d'inquisition. Il y a des bûchers partout où l'on brûle les hérétiques, etc. Le grand inquisiteur fait arrêter Jésus et lui tient un long discours. Il lui dit que son grand tort, c'est d'avoir voulu donner aux hommes la liberté, car les hommes n'étaient pas prêts de l'accepter, cette liberté. Au fond, ils n'en voulaient pas, ils n'en avaient que faire. Et l'Église, au contraire, que représente le grand inquisiteur, satisfait constamment le besoin des hommes de vivre guidés, dirigés, car cela les décharge du fardeau de la liberté. Prenez la tentation au désert de Jésus, telle que le rapporte l'Évangile dans les Évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Hein. Cette tentation incarne à merveille et résume les trois tentations fondamentales, peut-être diaboliques, puisque Jésus est tenté par le diable, mais en tout cas, tentations auxquelles succombe l'humanité régulièrement, tout au long de son histoire, car elles correspondent, selon l'inquisiteur, à sa nature, à sa constitution. Premièrement, la première tentation est de changer les pierres en pain. En fait, effectivement, l'humanité cherche d'abord à être nourrie. C'est son premier besoin. Elle cherche peu à savoir si l'homme ne vit pas seulement de pain, comme le dit Jésus. Donc, nourrissez-nous, hein, voilà ce que demandent les hommes. Et on retrouve là l'attitude du chien, bien nourri mes esclaves, face au loup. C'est une attitude qu'on pourrait dire majoritaire. La seconde tentation, je suis là à la version de Luc et non pas celle de Matthieu. La seconde tentation, c'est la confiscation du pouvoir. Le diable dit à Jésus, « Eh bien, je te donne tous les royaumes de la terre, tu vas pouvoir les dominer. » Alors, les hommes veulent aussi cela, « Guidez-nous, dirigez-nous. » Et la troisième tentation, c'est de s'élancer dans le vide et de voler. Le diable dit à Jésus, « Si tu t'élances du haut du pinacle, du temple, eh bien, des anges viendront te récupérer, t'empêcheront de t'écraser dans le vide. » Alors, là, il s'agit de subjuguer les hommes par des miracles, de faire ce qu'on appelle une thaumaturgie, le fait de faire des miracles. Et Jésus, encore, refuse cela. Mais cela, c'est encore ce que veulent les hommes. Étonnez-nous, disent-ils, ou dans la version moderne, amusez-nous. Donc on a les paillettes et le strass de la télévision, par exemple, dans les émissions populaires. Donc ce que demandent les hommes, c'est du pain d'abord et des jeux, comme on disait dans la Rome antique, panem et circenses, du pain et des jeux. Alors, j'explique pourquoi j'ai pris la version de Luc et non pas celle de Matthieu, parce que Matthieu, lui, met en deuxième tentation la thaumaturgie et en troisième tentation la tentation du pouvoir. Je préfère la version de Luc parce que de mettre la seconde tentation comme étant celle du pouvoir et la troisième étant celle de d'éblouir les hommes, parce que c'est beaucoup plus grave, à mon avis, d'agir sur l'âme des gens, sur leur imaginaire, sur leur esprit, que sur leur corps. Hein. Donc Luc est beaucoup plus fin en inversant l'ordre matthéen. C'est très grave, hein, justement, quand on perturbe l'esprit des gens. Alors, reprenons maintenant ce que... Alors, je signale d'ailleurs que cette tentation au désert, c'est ce dialogue entre le diable... Diabolos, celui qui sépare, hein. Et puis Jésus, c'est ce que l'on appelle en milieu juif un pilpoul, c'est-à-dire une controverse rabbinique. Hein. Le diable dit, il est dit dans la Bible que si tu t'élances du haut du ciel, tu ne te feras pas du mal, ça. Il est dit que, et Jésus répond, mais aussi il est dit que. Hein. C'est comme lorsque deux rabbins discutent et s'envoient à la figure. L'un à l'autre, le tel passage de la Bible. Il est dit que. Hein. D'ailleurs, dans Matthieu, c'est il est dit que. Hein. Donc, aïretai, et. Non, pardon. Dans Matthieu, c'est il est écrit, gegraptai. Hein. Et dans Luc, c'est il est dit que, aïretai. Il y a une petite différence entre l'écrit et l'oral, vous voyez. Alors revenons maintenant au problème posé par le grand inquisiteur. Il dit, ce grand inquisiteur, que les hommes n'ont que faire de la liberté et de l'autonomie qui sont proposées par Jésus. En effet, ils veulent l'asservissement et l'hétéronomie en échange de leur confort et de leur amusement, de leur appétit de merveilleux et de miracles. Et l'Église l'a bien compris, dit le grand inquisiteur, puisqu'elle a pris la charge de guider, d'encadrer, d'enrégimenter les fidèles pour les sécuriser, les délivrer de l'angoisse et du doute. Alors seuls certains dignitaires de l'Église ou quelques théologiens connaissent le doute. On soupçonne même que certains sont athées. Qu'ils ne croient pas, hein, l'athéisme est chez eux. Hein. Tenez, je pense à une parole que l'on a attribuée à Léon XIII, hein, vis-à-vis du cardinal Bembo. Ce pape, Léon XIII, aurait dit au cardinal Bembo, je vous dis la phrase en latin, « Quantum haec de Christo fabula nobis nostrisque profuerit, satis est omnibus seculis notum. » C'est-à-dire, combien cette fable au sujet du Christ nous a été utile à nous et aux nôtres, c'est assez connu de tout temps. Voilà, c'est assez connu de tout temps. Alors c'est une phrase, une extrême, un esprit très cynique. Je ne sais pas, on l'attribue à Léon XIII, hein. Je ne sais pas si effectivement il l'a prononcé, mais je pense que beaucoup de grands dignitaires de l'Église ont pu être athées, mais en fait, dans leur esprit, l'important c'était de diriger les petites brebis, les ouailles, ouicula, la petite brebis, hein, pour délivrer ces petites brebis du fardeau de la liberté et de la responsabilité. Sois sans crainte, petit troupeau, nous pensons pour toi et nous te dirigeons. Donc ce peuple fidèle est libéré d'un certain fardeau. Aussi, chez Dostoïevski, le grand inquisiteur condamne Jésus à être brûlé sur le bûcher. Et il est dans la nature et dans la fonction de l'Église de tuer Jésus, car il a trop demandé aux hommes. Et on pense à la réponse de la foule à Zarathoustra chez Nietzsche, Zarathoustra qui lui aussi demande trop aux hommes, il veut leur enseigner le surhomme, il veut leur montrer la banalisation où ils en sont, où ils ont été conduits. Eh bien, Zarathoustra dresse ce tableau pour faire peur aux hommes et les dégoûter d'eux-mêmes comme un miroir, mais la foule se méprend complètement et dit exactement le contraire. « Donne-nous ce dernier homme au Zarathoustra, nous te tenons quitte du surhomme. » Donc, vous voyez, c'est la même idée. C'est la même idée. Donc, lorsque ce grand inquisiteur parle, eh bien, on pense par exemple à ce que dit Kazantzaki dans La dernière tentation du Christ, « Otelotaios perasmos », hein. Vous voyez aussi le film de Scorsese qui en a été tiré, hein. « La mort de Jésus, Jésus recrucifié, la mort de Jésus est nécessaire à la prédication, par exemple, de Paul, au storytelling, à l'histoire, avec des Christofabula, cette histoire au sujet du Christ, hein, bon, parce que les gens vont être éblouis par cette histoire, oublier l'enseignement lui-même de Jésus, et ne croyant qu'à un storytelling, à une histoire, à ce qu'on appelle l'Evangelium de Christo, c'est-à-dire l'évangile au sujet du Christ, ce qu'on raconte à son propos, on a oublié l'Evangelium Christi, l'évangile du Christ ou la bonne nouvelle du Christ qui était dans son enseignement. Alors il est évident que le chrétien orthodoxe Dostoïevski attaque ici, en la personne du grand inquisiteur, l'Église romaine, hein, qui dirige le peuple. Dans l'Église romaine, en effet, la conception pastorale du pouvoir est très prononcée. Le pape incarne l'archétype du père et du berger, qui est le guide du troupeau des fidèles. Et le dogme même de l'infaillibilité du pape en matière de dogme religieux fait du pape une sorte de dieu, en quelque sorte, hein. Notez aussi que le Vatican est un état temporel, tandis que l'Évangile, au contraire, sépare bien César ou le pouvoir politique et le domaine religieux. Il ne nie pas César, mais il le sépare de Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Toute collusion entre politique et religion est contre nature, à suivre l'enseignement de Jésus, hein. Et en fait, l'Église romaine ne le met pas en pratique. Alors, par parenthèse, on ne voit pas pourquoi les chrétiens se scandalisent tant sur les problèmes de la sexualité qui ne sont jamais abordés dans l'Évangile et ne sont pas du tout chatouilleux sur les problèmes du pouvoir politique et de l'argent qui sont autrement plus importants dans les paroles de Jésus, hein. Donc on ne peut servir deux maîtres à la fois, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, etc. Tout cela, justement, n'est pas mis en pratique par l'Église, au moins l'Église romaine. Alors, il y a bien une anomalie, hein, d'être très chatouilleux sur la sexualité, par exemple, et pas du tout sur les problèmes du pouvoir, de l'argent. Cette anomalie est bien apparue à la sortie du film que je viens de citer, de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ. Il y a eu des bombes qui ont été mises dans les cinémas, hein, parce que le film supposait l'existence d'une relation amoureuse entre Jésus et Marie-Madeleine, et ça, les fidèles n'ont pas voulu l'admettre. Mais il y a des choses, à mon avis, beaucoup plus importantes que cela. Voilà, alors après cette virgule musicale, continuons notre réflexion sur autonomie et hétéronomie. Par exemple, chez nous, dans les pays latins, il y a une hétéronomie postulée. Hein. Les pays latins, en général, présupposent ordinairement que l'homme ne peut pas être autonome totalement, qu'il doit être guidé en quelque façon, parfois même en dépit de sa volonté expresse. Et à l'évidence, cette attitude provient de cette tradition pastorale propre à l'Église romaine et induite par cette Église dans les esprits. Mais cette position s'appuie aussi sur un fait bien oublié aujourd'hui et pourtant capital, qui s'est produit il y a bien longtemps. Je veux parler de la victoire de saint Augustin sur Pélage. Pélage était un Celte et il avait une idée optimiste de l'homme. Tandis qu'Augustin était un Méditerranéen, il avait lui une vision très pessimiste de l'homme. Pour lui, l'humanité était une massa damnata, une masse de condamnés. Donc la notion de péché originel qui ne figure pas dans les évangiles, c'est saint Augustin qui l'a imposée. Peut-être aussi viendrait-elle de Paul, de certaines expressions de Paul, de même que le péché est entré dans l'histoire par la faute d'un homme, c'est-à-dire Adam, à la première désobéissance, la première faute, et bien de même, il sera racheté par le Christ. Hein. Donc ce péché originel est peut-être paulinien d'origine, mais en tout cas c'est Augustin qui l'a généralisé. Cette idée du péché originel n'est pas une évidence. Le judaïsme, par exemple, ne connaît pas le péché originel. Pour le judaïsme, l'homme n'est non pas pécheur, hein, ou coupable, a priori, mais seulement responsable. En général, cette notion s'efface de l'horizon mental en période rationaliste et optimiste, mais elle réapparaît en période pessimiste, ou plus lucide peut-être sur la réalité humaine fondamentale. À de certains moments, les deux visions antagonistes, par exemple le pélagianisme d'un côté et l'augustinisme de l'autre, s'affrontent. Par exemple, au XVIIe siècle, la querelle qui a opposé les jésuites qui étaient pélagiens et les jansénistes qui étaient augustiniens, justement, a été l'occasion des provinciales de Pascal, par exemple. Alors, les premiers, les jésuites, croyaient à la liberté de l'homme et à sa capacité de se sauver par ses propres œuvres. Pour eux, il fallait donner beaucoup à l'homme et moins à Dieu, tandis que les seconds, les augustiniens, croyaient à la prédestination et à la toute-puissance de la grâce. L'homme, pour eux, ne pouvait se sauver tout seul. Ils mettaient tout à Dieu et rien, en quelque sorte, à l'homme. Il y a humanisme dans le premier cas des jésuites, et anti-humanisme dans l'autre cas des jansénistes. Hein. Tout le Moyen-Âge occidental, attention, je ne parle pas du monde orthodoxe, hein, qui ne connaît pas Augustin ou qui ne l'a pas pratiqué, qui ne s'intéresse qu'au père, la patristique, hein, orientale. Bon. Tout le Moyen-Âge occidental a été augustinien. C'est le soubassement de notre culture dans sa composante méridionale et latine. Et la signification anthropologique du péché originel, quelle est-elle? C'est la faiblesse et la vulnérabilité naturelle de l'homme. Le baptême, sacrement magique, conjure le péché originel. Par exemple, Marie, pour les catholiques romains, est exemptée du péché originel. C'est un dogme tardif, mais un dogme reçu. Hein. Elle est conçue sans péché. C'est l'idée de l'Immaculée Conception. Hein. Cette idée du péché originel est une option quant à la façon de voir l'homme. Je dirais quand même qu'elle n'est pas sans fondement psychologique, même si elle ne nous plaît pas, a priori, elle n'est pas sans fondement psychologique, parce qu'elle permet d'éviter l'orgueil et l'angélisme, le triomphalisme facile, inhérent à un certain humanisme. Elle induit dans l'esprit une certaine prudence, souvent salutaire. Mais évidemment, elle rabaisse l'individu, elle rabaisse ses velléités d'initiative, son désir de responsabilité. Et elle justifie la supposition que j'ai faite depuis le début de cette émission, selon laquelle l'homme a besoin d'être guidé, comme dit le grand inquisiteur de Dostoïevski. Que l'humanité ne soit pas totalement bonne, il suffit pour le sang convaincre, de regarder la pièce de Victor Hugo qui s'appelle Le Crapaud, où l'on voit des enfants s'amusant à persécuter un crapaud. L'enfant rit quand il tue, dit Victor Hugo. Hein. Il y a là un anti-rousseauisme fondamental qui, à mon avis, est assez lucide. Hein. Voyez aussi, à notre époque, le livre de William Golding, Sa Majesté des Mouches. Les enfants, Freud disait que c'est un polymorphe pervers ou un pervers polymorphe. Disons qu'il y a une vérité quand même psychologique dans cette histoire du péché originel. Bien sûr, poussée trop loin, elle peut amener à la paralysie, hein, mais enfin, il ne faut pas l'écarter d'un revers de la main. À l'opposé de cette option se situe l'esprit protestant. Mais alors, l'esprit protestant moderne. Je veux bien dire moderne parce que à l'origine, la réforme n'a fait que ressusciter le pessimisme et l'angoisse augustinienne. Lorsque Luther, par exemple, abordait le problème théologique de la justification par les œuvres, il disait que l'homme peut se sauver non par ses actions, mais par sa seule foi, sola fide. Hein. Donc il se situait à l'évidence du côté de saint Augustin contre Pélage. Et la théorie de la prédestination totale et de la grâce donnée seulement à certains élus, elle est chez Calvin, et elle est tout sauf humaniste. Hein. Calvin parlait même d'une double prédestination. Certains étaient prédestinés au salut, et d'autres étaient prédestinés à la damnation. Hein. Alors on s'est même demandé si le décret de damnation avait été formulé avant la faute d'Adam ou après la faute. C'est l'opposition entre les infralapsaires et les supralapsaires. Hein. Est-ce que Dieu avait de toute éternité maudit les hommes avant la faute d'Adam ou bien ensuite? Mais alors, je dirais que, bon, c'est vrai que les textes de Calvin autorisent, chez les réformés, donc, un particularisme théologique à propos de la grâce. Ce n'est pas un universalisme. Le particularisme, c'est le fait que la grâce est réservée à certains élus et pas à d'autres. Hein. Et l'universalisme, c'est le fait de dire que la grâce est donnée à tous. Hein. Donc, comment se fait-il que, par une espèce de paradoxe étrange, la réforme ait abouti à l'émancipation de l'individu face au pouvoir religieux d'abord, qui l'a encadré, qui le guidait, hein, et ensuite, justement, dans sa vie de chrétien. Donc la réforme a pu aboutir à un dynamisme et à un crédit maximal fait au sujet. Alors, on a dit que, par exemple, en vertu de la rétribution, ceux qui réussissaient dans la vie étaient élus par Dieu, choisis par Dieu. Donc, les protestants se sont dit, comment savoir si l'on est prédestiné ou pas, hein? Eh bien, agissons, et le résultat de nos actions montrera si, effectivement, nous sommes élus par Dieu ou pas. Alors, c'est paradoxal. À l'origine, si on lit les textes de Calvin, eh bien, on dit c'est du jansénisme, déjà. Hein, mais en fait, si l'évolution du protestantisme moderne a mené à un dynamisme, l'homme s'est dit, pour savoir si j'ai une valeur auprès de Dieu, je n'ai qu'à agir. Hein, je verrai le résultat de mon action. Et cette idéologie, je vous le signale en passant, imprègne tout l'idéologie des États-Unis d'Amérique. Hein. Donc voilà, pour eux, le vainqueur, il est vainqueur avec l'aide de Dieu, Deo Iuvante, hein, comme on disait aux Jeux Olympiques de l'Antiquité, où le vainqueur était censé avoir été favorisé par Dieu. Voilà, eh bien je laisse la réflexion en suspens, nous continuerons cela lors de la prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.